Bienvenue, si vous nous rejoignez, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Gérard Collomb avait insisté sur l'urgence de cette loi Asile et Immigration. 60 heures de débat plus tard, elle est adoptée grâce à une large majorité gouvernementale. La fronde est à peu près contenue, même si le député La République En Marche, Jean-Michel Clément, quitte le groupe parlementaire. Analyse de la stratégie de la peur qui a payé pour l'exécutif.
Le quatrième épisode de grève débute à la SNCF, mais il n'y a aucune chance que le gouvernement revienne sur ses réformes. Emmanuel Macron a été catégorique hier soir sur Fox News.
Un entretien à la télévision américaine, alors que le chef de l'État doit arriver à Washington ce soir. Première visite d'État de la présidence Trump. Nous l'évoquerons après ce journal dans le billet politique de Frédéric Seitz. Il tentera de savoir si la diplomatie est aussi l'art du cadeau.
Et avant cela, nous irons en Arménie où près de 100 000 manifestants ont défilé hier à Erevan contre les pouvoirs accrus du Premier ministre. Le chef de la contestation a été arrêté.
Et puis cette enquête de France Culture dans les couloirs de l'Opéra de Paris. Y a-t-il vraiment un malaise grandissant après des accusations de harcèlement? Rencontre dans une douzaine de minutes avec des danseurs. Les débats auront duré plus de 60 heures, 7 jours entiers, autour de cet objectif affiché de l'exécutif de faciliter à la fois l'expulsion des migrants déboutés et l'accueil des acceptés. In fine, le projet de loi Asile et Immigration est donc adopté en première lecture par les députés. 228 élus ont voté pour, 139 contre, toute l'opposition et un député de la majorité, Jean-Michel Clément, élu de la Vienne. Il annonce d'ailleurs son retrait du groupe parlementaire La République En Marche.
Je me mets en congé du groupe parlementaire. Je crois qu'il faut savoir tirer les conséquences d'une situation qui devenait compliquée. Moi, je pensais que sur des sujets comme celui-ci, on avait une conscience qui pouvait nous permettre d'avoir des avis divergents. Moi, j'ai été jusqu'au bout de mon raisonnement parce que je considère que ce sujet est à mettre au même niveau qu'un sujet comme les lois de bioéthique ou les lois sur la fin de vie. Je crois que je n'avais pas d'autre choix que de voter contre, d'abord c'est ce que j'ai fait en conscience et j'assume mon choix vraiment pleinement. Si c'était à refaire, je recommencerais et peut-être que j'appuierais même deux fois sur le bouton. Je considère que cette loi est une loi inutile, une loi inefficace qui a été dénoncée par toutes les associations qui s'occupent des réfugiés. Quand on est mal quelque part, autant prendre la décision sur le champ.
Le député Jean-Michel Clément a donc préféré anticiper une probable exclusion au sein de La République En Marche. Par ailleurs, 14 autres élus se sont abstenus. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour Clara.
Est-ce le début, Stéphane, d'une fragilisation de la majorité ?
On s'est aperçu à l'occasion du débat sur ce texte de loi que ce qu'Emmanuel Macron qualifie de vieux monde n'est pas complètement mort, que le clivage droite-gauche a encore du sens, que cette majorité en marche à l'Assemblée est finalement une majorité composite avec différentes sensibilités et que la sensibilité de gauche s'est largement exprimée à l'occasion des discussions qui se sont achevées hier soir. Faut-il pour autant considérer que cette majorité est fragilisée ? Probablement pas. Si vous prenez le résultat, au bout du compte, il y en a un qui a voté contre, un seul. Les autres qui ont voulu exprimer une forme de désaccord l'ont fait en s'abstenant. Et ils sont relativement peu nombreux, 14 de La République En Marche, 9 pour le Modem. Même la députée de la Manche, Sonia Crimi, qui était une des contestataires les plus virulentes, n'a pas osé voter contre. On ne peut donc pas vraiment parler de frondeur. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien voir que tous ces députés qui sont aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée doivent leur élection uniquement à Emmanuel Macron et au fait qu'il a remporté l'élection présidentielle. Et ça, c'est extrêmement puissant. Pourquoi y avait-il des frondeurs sous le précédent quinquennat ? Parce que la majorité était issue d'un accord aux législatives qui avait été négocié par Martine Aubry. Elle était donc plus à gauche que ce qu'incarnait et défendait François Hollande. Là, ce n'est pas le cas. Cette majorité procède directement de l'élection de Macron. On peut même dire que ce qui vient de se passer là est presque un aboutissement du macronisme qui veut que les débats entre majorité et opposition, entre ceux qui sont d'accord et ceux qui ne le sont pas, aient lieu en interne et qu'au bout du compte, tout le monde vote comme un seul homme, ou presque. C'est ce qui s'est passé là.
Merci Stéphane Robert pour votre analyse. Le Sénat examinera à son tour ce texte au mois de juin prochain. Alors que les associations, elles, ne cessent de réagir, Amnesty International France le qualifie ainsi de dangereux. Le délit de solidarité constitue, selon elle, une épée de Damoclès au-dessus des militants, citoyens et des organisations. D'ailleurs, ces derniers débats ont eu lieu sur fond de tension dans les Hautes-Alpes ce week-end. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a décidé d'y envoyer de nouveaux effectifs de police et de gendarmerie pour renforcer le contrôle aux frontières, contrôle des migrants. Samedi, des militants d'extrême droite, de Génération Identitaire, ont bloqué la route des migrants par le col de l'Échelle. Hier dimanche, des activistes pro-migrants, cette fois, ont au contraire aidé le passage d'une trentaine d'exilés. Deux conflits sociaux dans l'impasse en ce début de semaine. Chez Air France d'abord, où la grève recommence ce lundi. La direction prévoit la suppression d'un quart des vols, principalement des moyens et des longs courriers. Et puis à la SNCF, un nouvel épisode de grève a débuté hier soir. Il faut donc compter aujourd'hui en moyenne 2 TGV sur 5, 3 RER et 3 Transilien sur 7, ainsi que 3 Intercités sur 10. Ce mouvement doit se prolonger jusqu'à la fin du mois de juin, période de baccalauréat et de brevets inclus. Pour permettre aux étudiants de pouvoir se rendre à leurs examens, la SNCF a donc promis hier un dispositif spécial. Alain Vichera est directeur général adjoint à la SNCF.
Nous allons mettre en place un poste de commandement examen qui nous permet, avec les recteurs, avec l'éducation nationale, avec les collectivités locales et évidemment avec les régions SNCF, de prévoir des plans de transport adaptés et des trains garantis. Les jours de grève qui correspondront à des jours d'examen, nous mettrons tout en œuvre pour faire en sorte qu'il y ait une signalétique, une information préalable de tous les jeunes qui passeront ces examens. Si on compte uniquement le brevet et le baccalauréat, ce sont quand même 1 500 000 personnes. Tous n'auront pas besoin de train, évidemment, mais certains d'entre eux auront besoin d'un train. Et c'est la mission de service public de la SNCF. Nous souhaitons leur garantir que leur train roulera.
Le directeur adjoint à la SNCF, Mathias Vichera. La grève s'étiole donc, estimait par ailleurs le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, hier soir. Il risque de nous motiver pour continuer le mouvement, prévient ce matin un responsable CFDT. La colère sociale donc, qu'entre outre-Atlantique, Emmanuel Macron exclut toujours tout recul dans le train de ses réformes. Le président français l'a dit hier soir sur la chaîne américaine Fox News, quelques heures avant son arrivée aux États-Unis. Emmanuel Macron est en effet fait attendu ce soir à Washington, une visite d'État qui va durer 3 jours. L'occasion de mettre en scène, une fois encore, son amitié avec Donald Trump. Les symboles seront nombreux. Un dîner au Mount Vernon, la demeure historique de George Washington. Un autre dîner à la Maison Blanche, puis un discours devant le Congrès américain mercredi. Emmanuel Macron espère convaincre Donald Trump de respecter l'accord sur le nucléaire iranien et de renoncer aux taxes sur l'aluminium et l'acier importés d'Europe. Mais peu d'annonces sont attendues.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réa. La crise politique s'aggrave en Arménie.
Après l'interpellation du chef de la contestation et de centaines de manifestants, ils accusent tous le Premier ministre de confisquer le pouvoir. Ancien président, il a fait modifier la constitution pour renforcer justement les pouvoirs du Premier ministre. Et hier soir encore, des dizaines de milliers d'Arméniens étaient dans les rues de la capitale. Régis Janté.
Les peut-être 100 000 Arméniens rassemblés place de la République ce dimanche soir à Yerevan sont le signe que plus le pouvoir réprime, plus le peuple se mobilise. Le matin, l'entrevue entre le Premier ministre Serge Sarkissian et le député Nikol Pachinian, qui mène la contestation dans la rue, n'a pas duré 2 minutes. L'ancien chef de l'État n'a pas supporté que son interlocuteur pose sa démission comme condition du dialogue avec le gouvernement. Moins de 2 heures plus tard, Nikol Pachinian était arrêté avec d'autres représentants du peuple et des centaines de simples citoyens. Voilà qui n'a fait qu'exacerber la colère populaire. Certains ont été jusqu'à s'enchaîner à même l'asphalte des rues d'Erevan pour mieux en paralyser l'activité. D'autres se sont réunis devant le commissariat où M. Pachinian était détenu. Le soir venu, ils ont été des dizaines de milliers à converger vers la grande place de la capitale arménienne où ils se sont entendus lire un message de M. Pachinian appelant à la poursuite de la lutte, à la désobéissance civile, au blocage des rues. L'avenir du mouvement dépend plus que jamais de l'importance de la mobilisation populaire dans un pays où le salaire moyen est d'environ 300 euros, miné par la corruption et l'absence de vision politique.
Des manifestations monstres aussi et des victimes cette fois au Nicaragua. Des centaines de personnes ont protesté ces 5 derniers jours contre la réforme des retraites envisagée par le gouvernement. La répression aura fait au moins 25 morts. Le chef de l'État, Daniel Ortega, a finalement renoncé à cette réforme. Il proposait d'augmenter les contributions sociales des salariés et des employeurs pour essayer d'équilibrer le système de retraite dans le pays. Le dernier bilan de l'attaque terroriste à Kaboul hier fait état de 57 morts, 119 blessés. L'attentat suicide dans la capitale afghane a été revendiqué par le groupe État islamique. Un centre d'inscription pour les élections législatives d'octobre prochain a été visé. C'est la 3e attaque contre un centre de ce genre. Preuve du climat de défiance vis-à-vis des autorités, Sonia Ghezali.
Un homme en larmes penché sur sa fille inconsciente allongée dans un lit d'hôpital. Image tournée par les télévisions locales dans les hôpitaux qui ont reçu les victimes de l'attaque. Sur les lieux de l'attentat, plusieurs heures après l'explosion, des habitants du quartier profondément affectés et en colère affluaient sur place. Le gouvernement est incapable de nous protéger, criaient certains, fustigeant les talibans. La revendication viendra finalement de l'organisation État islamique qui s'en prend régulièrement à la minorité chiite depuis que le groupe terroriste s'est implanté dans le pays en 2015. Les autorités afghanes, qui contrôlent 40% du pays, doivent faire face aux attaques provenant des deux groupes armés. Malgré ce contexte, l'organisation des élections a été maintenue. La commission électorale, qui espère l'inscription sur les listes électorales d'au moins 12 millions d'électeurs, n'a pas caché ses craintes concernant la sécurité des bureaux de vote. Ces élections législatives pour renouveler 249 sièges au Parlement afghan seront imparfaites, concèdent certains observateurs internationaux, mais elles doivent avoir lieu par souci de légitimité et de crédibilité du gouvernement actuel. Insiste-t-il. D'aucuns, en revanche, ne se risquent à se dire optimistes quant à la tenue du scrutin sans incident. Il est à craindre qu'il soit entaché de drames, à l'image des trois attaques perpétrées contre des centres électoraux la semaine passée. À l'insécurité s'ajoute la défiance de la population à l'égard d'une commission électorale et d'un gouvernement entaché par de multiples affaires de corruption.
Sonia Ghezali, correspondante de RFI à Kaboul pour France Culture. Les renseignements français savaient-ils que le groupe Lafarge finançait le groupe État islamique en Syrie ? C'est probable, si l'on en croit ce témoignage dévoilé ce matin dans les colonnes de Libération. Le quotidien révèle un PV d'audition daté du 12 avril dernier. Jean-Claude Veillard, ancien directeur de la sûreté chez Lafarge, y indique que l'Élysée et le Quai d'Orsay participaient à des discussions stratégiques sur l'envoi de soldats dans l'usine syrienne, l'usine Lafarge. Elle constituait alors, entre 2012 et 2014, un canal de renseignement qui a été utilisé plus de 30 fois par les services de la DGSE et la DGSI. Sans surprise, Salah Abdeslam ne sera pas présent ce matin pour entendre le jugement au tribunal correctionnel de Bruxelles. Il a refusé de quitter sa cellule de Fleury-Mérogis. Dernier survivant des commandos du 13 novembre, il risque 20 ans de prison pour une fusillade dans la capitale belge. C'était en mars 2016. Pendant sa traque, trois policiers avaient été blessés. Malaise à l'Opéra de Paris, acte 2. La semaine dernière, un document interne de près de 200 pages révélait que 77% des 154 danseurs se disaient victimes ou témoins de harcèlement moral à l'opéra. Quelques jours plus tard, une centaine de ces mêmes danseurs publiait une lettre de soutien à la direction. Cécile de Kervas-Doué a tenté d'y voir plus clair sur ce malaise, témoignages à l'appui.
Les gens ont peur. Ils ont peur que s'ils disent des choses contre, ils soient sanctionnés. Moi, ça me fait penser à l'Union soviétique.
Julien est le seul du ballet à avoir accepté d'emblée d'être enregistré, mais sous un nom d'emprunt. Dans les couloirs de l'opéra, auprès de la direction, tout autant que chez les syndicats, c'est l'Omerta. Pourtant, sur le sondage interne de 176 pages, les danseurs sont plus loquaces et fustigent massivement le management, les concours, les choix artistiques, les rémunérations comme la cantine ou le manque de wifi. Et c'est vrai qu'ils se plaignent tout le temps, raconte Julien, ancien danseur étoile et aujourd'hui leur professeur.
Moi, j'ai vécu effectivement l'école de danse comme une période de soumission. J'avais presque envie de dire, si on me demandait de me jeter par la fenêtre, je l'aurais fait. Et aujourd'hui, ce sont des générations qui sont beaucoup plus libres, égocentrées parce qu'ils ont leur portable, leur Facebook. Et tout ça, finalement, se ressent en scène, par exemple dans un corps de ballet, ça marche pas si, non, mais moi j'ai envie de faire le mouvement comme ça, la jambe plus haut que la copine. Ces gens-là, quand on essaie de leur dire ce qu'ils ont à faire, peuvent le vivre comme une agression personnelle.
Sauf que le sentiment de harcèlement est bien réel. En témoigne la réunion de mise au point des 154 danseurs du ballet la semaine dernière, les portables laissés dans une glacière à l'entrée et les règlements de compte qui ont suivi. Preuve que la succession de l'ancienne directrice a été mal gérée, continue Julien.
Avec Benjamin Millepied, tout a changé de manière radicale. Il voulait amener un mode de fonctionnement à l'américaine et de voir qu'une petite jeune a plus de spectacles qu'un étoile. Les gens ont été complètement perdus.
Les artistes demandent donc plus de dialogue, plus de sens aussi. Car dans une institution qui a perdu 45% de ses dotations publiques au profit du mécénat privé, les productions sont de plus en plus nombreuses, comme les blessures des danseurs qui doivent gérer techniquement l'alternance de ballets classiques avec des ballets contemporains. Et c'est là le cœur du problème, explique l'historienne Sylvie Jacques-Mioche, professeure d'histoire de la danse à l'opéra.
Dans les années 80, le pouvoir politique va surtout investir sur la danse contemporaine. Mais on n'a pas vu l'effet pervers de cette idéologie qui voulait que la danse classique soit forcément un truc ringard qui n'avait plus de sens. On ne va pas investir sur la création de nouveaux chorégraphes classiques et on n'a pas la relève.
La preuve avec ce Roméo et Juliette de la chorégraphie graphe allemande Sacha Valls, donnée jusqu'au 4 mai à l'Opéra Bastille, et ce malgré la crise, parce que, comme me le confiait un danseur des ballets de Lorraine, les danseurs travaillent toujours pour le ballet et non pour leur directeur.
Omerta au ballet de l'Opéra. C'est une enquête de Cécile de Kervas-Doué que vous pouvez retrouver dès maintenant sur franceculture.fr. Un temps plus frais ce lundi avec quelques averses parfois orageuses du sud-ouest jusqu'au flanc est. Partout ailleurs, le soleil sera encore bien présent et de la douceur donc. 12 degrés ce matin à Cherbourg, 13 à Brest, 15 degrés à Lille et Bordeaux, 17 sur l'Île-de-France. Comptez 19 à Strasbourg et Lyon, jusqu'à 22 degrés ce matin à Marseille.